marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Sacenotbaum, un écrivain en Europe.
Mon village sur cette île s'appelle San Luis, ou pour l'écrire à la catalane, Saint Louis. Il tire son nom de Saint-Louis, roi de France au XIIIe siècle. La fiesta annuelle a lieu le jour de la Saint-Louis. C'est une parade rituelle de chevaux et de cavaliers, aussi cérémonieuse dans ses règles que si elle avait été importée de la cour de France. Le cortège est conduit par le Caïcher Senior, le marquis ou le duc, suivi de l'église représentée par le Caïcher Capella, le curé. Mon dictionnaire catalan-espagnol, qui a près de 600 pages, donne pour le mot caïcher le sens de caissier. Mais cela ne résout pas l'énigme. Les caïchers et les autres cavaliers de Saint-Louis se rendent maintenant au moulin. Les danseurs ont bu beaucoup de pomada, un mélange de citronnade et de gin distillé sur l'île. Le gin s'appelle ici choriguer. Mais en ouvrant mon dictionnaire catalan-espagnol, je trouve comme traduction cernicalo, mot pour lequel mon dictionnaire espagnol-néerlandais donne « faucon cresserelle ».
Extrait de 533 de Sacenotbaum, le livre des jours. Son dernier livre traduit en français « L'Europe et traduction » est en train de dire Sacenotbaum qui est avec nous, à son traducteur qui est présent aussi, Philippe Noble. Néerlandais-allemand, néerlandais-français, catalan-espagnol, espagnol-néerlandais, tous ces dictionnaires, jamais longtemps fermés, parlent entre eux dans les bibliothèques de Sacenotbaum et attendent qu'ils leur reviennent, car les livres attendent qu'on les ouvre. En général, Sacenotbaum passe le début de l'année en Allemagne du Sud. Puis, c'est Amsterdam, son pays. Et en juin, la voiture chargée de livres prend son élan vers Barcelone en passant par la France. Le ferry emmène ce curieux équipage à Minorque, où ses livres ont patienté à la maison pendant que le jardin prenait son autonomie. Sacenotbaum, qui a commencé à voyager comme autostoppeur, voire matelot, est un écrivain nomade, mais un nomade peut avoir plusieurs pâturages. On attendait depuis longtemps un dictionnaire néerlandais-catalan. L'Europe ne tient pas assez compte des petits pays. Le néerlandais est tout de même pratiqué par 30 millions de personnes, enfin, en comptant large. Cependant, c'est une langue minoritaire et dans laquelle Sacenotbaum a toujours voulu écrire. Le bassin de lecteurs dans lequel il plonge n'étant pas très grand, il n'a pas désiré le diviser en couloirs. Sa nature profonde est d'être poète, mais quel public un poète néerlandais peut-il toucher? Aussi a-t-il été également romancier, novelliste, diariste, journaliste, tout à la fois. Et il est traduit à travers le monde et il est devenu le plus connu des écrivains de son pays. Partout chez lui, partout à son corps défendant, existant au monde et n'en étant pas, lui-même et un autre, ces deux hommes, ils portent mes valises, lisent mes journaux, gagnent mon pain, ensemble nous traversons le bruit et l'air du monde.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Sacenotbaum, c'est un honneur de vous recevoir à l'occasion de la traduction par Philippe Noble de votre dernier ouvrage 533. Alors, votre nom s'écrit avec 4 zéros.
C'est ça, oui.
4 O, 4 zéros. Oui. Et quand vous aviez vos habitudes dans un petit hôtel du côté de l'Odéon, tous les matins, le propriétaire vous disait « Bonjour, monsieur Boum ».
Monsieur Boum, oui. Oui. Il y a autre chose avec ces 4 zéros, c'est quand par exemple je publie un article quelque part et on n'écrit pas mon nom comme il faut, alors Notebaum avec un O et deux O, comme par exemple Notebook. Alors je le réécris, je dis vous avez quitté un de mes zéros, voulez-vous peut-être le ajouter à l'honoraire? Et ils le font. Non, ils le font pas. Mais ils ne font jamais plus la faute.
Parce que vous avez été longtemps journaliste, grand reporter, de Budapest en 56 à Paris, à l'Odéon en 68, jusqu'à Berlin en 89. Vous dites souvent, je suis un fils de la guerre, parce que vous avez vu les visages des soldats dès l'âge de 6 ans.
Oui, bien sûr, parce que le jour que la guerre a commencé, le 10 mai 40, la Air Force, comment dit-on, allemande, a attaqué un aérodrome juste derrière la maison de mes parents. Or, c'était un bruit incroyable et des parachutistes ont sauté. Et mon père avait mis une fauteuil au balcon pour regarder tout ça. Et moi, j'ai tremblé comme un petit je ne sais pas quoi. Et on m'a mis de l'eau froide au-dessus de moi. Bien. Et moi, j'ai l'impression que tous mes mémoires de jusqu'à ce moment-là, les premières 6 ans, ont disparu avec ça. J'ai pas de mémoire. Mais après, mon père m'a pris par la main quand, 2 jours après, la guerre était déjà finie. Hein. Ça a été comme en France, rapide, le blitz allemand. Alors, là, j'ai vu entrer les Allemands avec des grandes troupes de la musique. Et ça, c'est assez inoubliable quand même. Parce que j'ai aussi vu comment ils ont parti. 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'était des soldats qui avaient perdu la guerre. Et ça, c'est une toute autre image. Ils étaient pauvres, avec des uniformes déchirés. Ils avaient peur aussi. Et ils avaient vu beaucoup de choses. Alors, c'est ça, j'ai vu le début et la fin de la guerre.
Enfant de la guerre, vos premiers souvenirs d'Européens, enfant de la guerre froide et reporter dans beaucoup de lieux de la guerre froide jusqu'à la chute du mur à Berlin. Mais je vais vous présenter maintenant comme l'homme que vous êtes devenu, traduit en 38 langues.
Oui, mais disons, par exemple, un livre en vietnamien, etc. Mais il y a certains nombres en Chine, il y a 9 livres. En Corée, ça quand même, mais surtout en français, allemand, anglais.
Et bientôt, les œuvres complètes en allemand.
Oui, quand ils seront complètes. Là, je ne peux pas vous assurer quelque chose. On ne peut pas publier les œuvres complètes de nos auteurs vivants.
Mais on peut distribuer des doctorats honoris causa, ça vous est arrivé à Berlin, toutes sortes de distinctions. Vous citez dans 533... L'histoire des jours, votre goût pour Bergman et pour ce film Les fraises sauvages, qui peint une situation que vous avez peut-être connue.
Je m'appelle Eberhard Isaac Borg et j'ai 78 ans. Demain, j'aurai passé ma thèse de doctorat depuis 50 ans et l'on fêtera mon jubilé dans la cathédrale de Lund.
Elle est à toi, la bagnole devant la grille?
Oui, c'est ma voiture.
Dis donc, c'est une antiquité.
En effet, c'est une antiquité. Elle est comme moi, tu vois.
Tu te moques de toi? Tu fais de l'ironie? C'est fantastique! Oh, j'oubliais, où vas-tu? Je veux dire, dans quelle direction?
Dans la direction de Lund.
Oh, c'est vraiment un coup de veine. Figure-toi que moi, je vais en Italie.
Oh, je suis tout à fait ravi de cette coïncidence.
Mon nom est Sarah. Drôle de nom, pas vrai?
Mon nom est Isaac. C'est aussi un drôle de nom.
Ils étaient mariés, je crois.
Non, non, hélas. C'est Abraham qui était l'époux de Sarah.
Alors, on s'en va?
Oui, mais j'ai déjà une passagère dans mon antiquité. Tenez, la voilà. Marianne, je te présente Sarah.
Bonjour. Bonjour.
Elle va nous accompagner à Lune, mais elle consent à faire un bout de route avec nous.
Alors, on se tire?
Oui. Oui.
Faire dialoguer comme ça les générations, abolir le temps, ça c'est un motif très important dans vos livres.
Oui, j'ai entendu ce film-là en suédois. C'est pas que je comprends le suédois, mais chez nous, les films ne sont pas synchronisés. Alors, le texte était en bas, en néerlandais, de façon que j'ai pas immédiatement reconnu la
situation.
Mais la scène était fabuleuse parce que il voit son amour de jeunesse dans cette jeune fille qui vient prendre qui fait l'autostop avec lui. Ouais, un film très mélancolique, mais très beau.
Le souvenir est comme un chien qui se couche où il veut.
Oui. Oui. On a écrit une phrase pareille et qui m'est portée derrière moi toute ma vie. C'est devenu plus ou moins un proverbe en Hollande et là, on ne peut plus échapper, on l'a écrit.
vient un moment où on connaît davantage de morts que de vivants.
Et oui.
Ça, vous l'avez écrit aussi.
Oui.
Mais c'est une maxime assez généralement partagée.
Oui. Je viens avec mon petit groupe qui m'accompagne ici, je viens de leur dire un mot de Brecht. Chien, veut-il vivre pour toujours ?
Vous parlez de Brecht, alors, que les morts viennent hanter les vivants. Bon, tout le monde en est conscient. Mais ce qui est très original dans vos livres, c'est que vous faites se parler les morts entre eux. Brecht avec Max Frisch, un grand dramaturge, Gombrowicz avec Borges. Et alors, les morts qu'on aime bien ne s'aiment pas nécessairement entre eux.
Non, ça j'ai vu souvent. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé, pas aimé, admiré Gombrowicz et Borges, admiré surtout, mais entre eux, il n'y avait pas d'amour, pas du tout, non, non. Il était une dépréciation, etc. Ce qui est un peu difficile pour les lecteurs qui aiment les auteurs. Mais il y a sans doute des lecteurs qui aiment ce que je fais, et qui aime autre écrivain qui n'aime pas du tout ce que je fais. Ça existe.
Et néanmoins, les livres se parlent entre eux.
Ah oui, c'est un rêve de l'écrivain. Parce que quand je rentre à ma maison à Amsterdam après quelques mois, ils sont là, quelques milliers de livres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps ? Je m'imagine qu'ils se sont parlé, parce qu'autrement, ils seraient très tristes. Et s'ils ne s'entrelisent pas, quoi? Parce que, on peut l'entendre quand on revient dans sa maison, après longues absences, parce que je fais des longues absences, de temps en temps, on entend un murmure, un peu fâché, inquiète. Ils sont vexés parce qu'on les a laissés seuls. Et de temps en temps, on peut ouvrir un livre qu'on n'a pas lu pendant 5 ans, 6 ans. Ça grommelle.
C'est pour ça que je me suis laissé dire que vous les laissez à plat pour qu'ils puissent s'ouvrir plus facilement.
Non, je laisse certains livres à plat pour, quand je rentre, pouvoir les ouvrir immédiatement. Mais normalement, les livres sont rangés quand même.
Vous ne mettez pas Borges à côté de Gombrowicz ?
Oh, je pourrais bien le faire pour voir ce qui se passe.
Parce que vous attendez qu'il se passe quelque chose non seulement entre les livres, non seulement entre les morts, mais entre un écrivain et un musicien, par exemple. Vous lisez un livre de Montaigne, et vous écoutez une musique, et vous imaginez le dialogue entre Montaigne, qui n'en peut mais, et la musique qui a été produite 4 siècles après sa mort.
Oui. Vous savez, les gens solitaires font beaucoup de choses étranges. On peut aussi, par exemple, prendre un livre de Montaigne et de musique contemporaine de ce livre. On entrera peut-être mieux dans l'esprit de Montaigne quand on fait ça.
On va entendre de l'allemand, Barbara Sukowa, actrice allemande, un compositeur viennois, Schoenberg. Et évidemment, c'est en Espagne que vous écoutez ceci.
Und träum hinein.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Notre témoin de ce vendredi, Sess Notboom, grand écrivain néerlandais, que dis-je, européen, mais que dis-je, il pourrait aussi nous parler très bien du Proche-Orient ou de l'Extrême-Orient. Il publie un nouveau livre en français dans une traduction de Philippe Noble chez Actes Sud, 533, le livre des jours. Alors, régulièrement, une caravane qui traverse la France avec votre compagne Simone Sassen, avec vos livres, va jusqu'à Barcelone, vous prenez le ferry,
oui,
et vous arrivez 9 heures plus tard.
9 heures, oui.
À Minorque.
À Minorque.
Voilà. Vous écoutez Barbara Sukhova ou bien d'autres. C'est une île où le vent règne en maître.
Oui, et ce vent a un nom, c'est la Tramontana. C'est le vent qui vient au-dessus des montagnes.
Vous y êtes depuis 65, ça veut dire que dans le ferry, vous avez vu une photo de Franco, une photo de Juan Carlos jeune, une photo de Juan Carlos vieux, une photo de Felipe.
Exactement, et j'ai aussi vu des soldats avec des casques allemandes, parce qu'après la guerre, j'avais juste vécu la guerre avec des soldats allemands, avec cette forme très remarquable de la casquette, non? Et à ma surprise, quand je suis arrivé en Espagne pour la première fois, en 54, oui, ils avaient les casques allemandes. Peut-être ils les ont eus bon marché, je ne sais pas.
La maison vous attend, dans la maison les livres. Vous êtes très attentif aux événements. C'est notre baume. Mais dans la maison se produisent des événements qui sont des événements pour vous, mais qui ne sont pas des événements pour les autres, nécessairement.
Peut-être pas pour le monde, non. Je crois que je sais de quoi vous voulez parler.
Oui, mais vous ne connaissez pas l'extrait du film que je vais vous passer.
Ah.
Où il est question d'araignées. Oui, parce que il y a ce qu'on appelle l'effet Bambi, vous voyez, on aime bien les animaux adorables.
Mm-hmm.
Mais en ce qui concerne les araignées, le point de vue d'un vétérinaire d'abord, puis l'extrait d'un film avec un acteur bien connu.
Il n'est pas une créature plus injustement chargée que l'araignée. Quand un seul rossignol se gave par milliers de larves et d'insectes, on reproche à la sobre araignée, comme un horrible crime, l'unique mouche d'un repas. Ainsi va la logique humaine.
L'araignée là, la soupilla.
Oh, elle est énorme, je vais la tuer.
Laissez cette petite bête tranquille.
Jamais de la vie.
Laissez cette petite bête tranquille, vous dis-je.
Mais qu'est-ce qui vous prend? Une araignée?
Eh bien oui, c'est une araignée, et après? Est-ce que toutes les bêtes du bon Dieu n'ont pas le droit de vivre et de respirer? Je ne vois pas pourquoi vous écraseriez une araignée qui ne vous a rien fait.
La maison est assez délabrée, je veux au moins qu'elle soit propre.
Tenez-la propre et laissez les araignées en paix.
C'est une adaptation de la pièce de Marcel Aimé, Claire Ambard, un film d'Yves Robert, et Philippe Moiret tient le rôle de Sess Notboom.
Non, c'est qu'un jour, je l'ai décrit dans le livre, c'est pas facile de le lire maintenant, mais j'ai vu dans ma chambre très blanche, soudain, une araignée qui était là. Et je l'ai regardée, elle sans doute m'a regardée, mais il ne se passait rien, elle ne mouvait pas. Et jour après, même chose. Et encore, autre jour. Et là, troisième jour, il y avait une toute petite araignée, ou était-ce pas une araignée, je ne savais pas. Et je me suis dit, est-ce que c'est une partenaire sexuelle pour la première, ou est-ce que c'est de la nourriture? Eh bien, en tout cas, il y a eu tout un drame qui s'est développé lentement. J'avais vraiment quelque chose à faire, seulement à les regarder. Et puis, un jour, les deux partis, parce que...
La femme de ménage.
La femme de ménage.
Carmen. Faut citer son nom, Carmen.
Carmen, oui. Elle a fini le drame. Pas comme Marcel Aimé, peut-être, mais...
Et ça, c'est un événement pour vous?
Ça, c'est pour moi un événement. Oui, mais quand on vit assez seul... Pardon. Ça, c'est aussi un événement. Mais si on vit en solitude et avec pas beaucoup de bruit, tout devient un événement. Et quand un certain oiseau, par exemple, qui est rare, soudain se met à côté de votre siège avec des couleurs fantastiques, ça, c'est un événement.
Et alors, se mettre du point de vue de l'araignée, du point de vue de l'oiseau, du point de vue de la tortue, parce qu'on va parler du jardin, et dans le jardin, il y a des tortues à Minorque. Ça, c'est l'effort qui vous meut aujourd'hui. Entrer dans la tête de la tortue. Et la tortue regarde sa Snowball.
Oui, parce que ça peut être qu'elle veut de l'eau. Quand il y a une grande chaleur, elle vient et elle met sa tête. Ce sont des têtes assez dures contre ma pied, mon pied. Pop, pop, pop. Et ça veut dire, je veux de l'eau. Eh bien, je mets de l'eau sur la terrasse et la lèche et puis s'en va. Et puis je ne la revois plus pendant quelques semaines.
Et s'il y a un événement à Minorque et qui requiert toutes les attentions, c'est l'avancée de la chenille processionnaire ou l'avancée des maladies qui touchent les palmiers.
Oui. Et ça, c'est assez grave, oui, quand on aime ces palmiers, parce que je les ai plantés, moi, avec Hugo Claus.
Oui, le grand écrivain belge.
Et un jour, on a planté les deux palmiers. Et puis, je les ai vus croître plus en plus haut. Et il y a un moment où on ne peut plus les couper. Il y a un moment où ils deviennent malades. Et c'est comme si c'était un cher ami ou un oncle qui est malade. Et parce que si on a un jardin et on traite son jardin, cultive, comme dit Voltaire, le jardin va vous dire des choses que moi je suis aussi vulnérable que toi. Ils me peuvent passer des choses et tu peux ne rien faire, malheureusement.
Le jardin vous cultive. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, les cactées poussent tranquillement. Les cactées, ici décrits par un botaniste cher à France Inter, Jean-Marie Pelt.
Dans leur milieu de vie, dans les déserts où ils vivent, la règle veut que la plupart des cactus ne fleurissent que la nuit. Tout le cactus est une architecture pour lutter contre la sécheresse, pour ne pas trop transpirer, pour mettre de l'eau en réserve, pour ne pas la perdre en cours de route, pour résister quand il n'y a plus d'eau du tout en se rétractant comme un accordéon, etc. Tandis que la fleur n'a aucun moyen de lutter. La fleur, elle a des pétales très fins, le soleil tape sur ses pétales, au bout d'une demi-heure, ils sont complètement déshydratés, et la fleur est finie, elle est morte. Donc, comme la fleur n'a pas de moyen de défense contre la sécheresse, elle se défend en s'ouvrant la nuit, quand il y a moins de soleil et quand c'est moins dangereux. Et c'est un type d'adaptation qui est tout de même tout à fait remarquable. Alors, on va prendre quelques exemples de très beaux cactus qui fonctionnent comme ça. Le Vatricania, ça n'a rien à voir avec le Vatican. C'est un monsieur qui s'appelait Vatrica qui avait donné son nom à ce cactus,
oui,
du Pérou. Tous les cactus sont américains, hein, j'ai oublié de le dire, tous, sans exception. Il n'y a aucun cactus qui n'est pas américain. Un homme du Moyen-Âge n'avait jamais vu un cactus. Il n'existait pas de cactus. On les a vus quand on a découvert l'Amérique.
Oui, d'accord, mais comment on décrit un cactus?
Ah, ça c'est vraiment très difficile parce qu'ils ont des formes tout à fait différentes. Et quand je suis revenu de plusieurs voyages, disons, latine, Amérique latine, ça m'avait impressionné. Je voulais avoir des cactus dans mon jardin à Menorca, mais j'étais pas sûr si possible, parce que Menorca n'a pas un climat facile. Il y a ce vent-là, le tramontana, qui amène du sel. Alors, c'est pas un endroit, un environnement facile pour des cactus. En tout cas, je les ai plantés et ils sont restés. Il y a un qui est comme une phallus énorme et j'ai peur maintenant parce qu'il devient de plus en plus grand. Et quand je mets ma doigt, je peux légèrement le faire bouger et je ne sais pas ce qui va arriver. Sa longueur, sa grandeur. En tout cas, il y a des autres qui sont que j'appelais le guerrier, il y a un autre que j'ai appelé, moi, le mexicain, parce que les noms latins sont un peu compliqués.
Oui, mais c'est bien le latin. Comment dites-vous? Le latin, c'est l'essence. Le français, c'est la pensée. Le portugais, c'est l'eau.
J'ai dit tout ça.
Ouais. Et le catalan, disiez-vous, je vous cite, hein, la fierté. Alors, dites-nous un mot de la situation en Catalogne, parce que dans le féerique que vous allez prendre bientôt, il y a eu la photo de Franco, de Juan Carlos vieux, après avoir été jeune, de Felipe, puis bientôt, il n'y aura peut-être plus la photo de Felipe, parce que la Catalogne est une petite nation qui veut devenir un pays. Que pensez-vous de ça, cette notebook?
Ça, c'est un thème très compliqué. La langue catalane, qui est une belle, vieille langue, moi, je suis tout pour, mais je ne suis pas exactement que des parties, par exemple Bretagne en France, que ça se déchire de l'entité nationale. Parce que on a essayé, finalement, après tant de guerres, d'avoir une Europe unie, et maintenant, ils commencent à tirer aux côtés. À quoi ça sert? Point de vue climat, environnement. Ça coûte l'Europe 7 milliards. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Tous ceux de droite qui veulent maintenant des pays nationaux, de l'indépendance de l'Europe, comment ils vont payer sous tout ça? C'est, finalement, on a inventé quelque chose qui va vraiment, pourrait vraiment nous aider beaucoup pour survivre, et ils vont se déchirer entre eux parce qu'ils veulent que... Non, je ne vois pas.
Mais vous devriez, néerlandais, appartenant à une petite nation commerçante et fière, vous sentir solidaire des Catalans, commerçants et fiers, parce que vous avez toujours dit que les structures de la construction européenne négligeait les petits pays.
Non. Les petits pays ne peuvent pas survivre sans Europe. Là, je suis convaincu, moi. En tout cas, nous, les Néerlandais, notre unité se doit à une bataille qu'on a eue avec l'Espagne il y a 300 ans, 400 ans. La guerre de 80 ans. Et c'est comme ça qu'on est resté, nous, une unité. Et c'est pour cela que nous, on n'est pas contre l'unité de l'Europe. Mais maintenant, il surgissent des partis avec un goût du passé, pas du futur. On va voir ce que ça donne.
Merci à vous, c'est notre baume, néerlandais, européen, nomade dans le monde. Vos livres chez Actes Sud, généralement depuis la plus haute antiquité, dans une traduction de Philippe Noble. Merci de nous avoir assistés. Philippe Noble, le dernier, 533, le livre des jours. L'émission était préparée par Frédéric Martin, Elinka Negulesco, Adèle Caïto et Franck Olivard. La réalisation Valérie Aestaraï, à la technique Julien Dumont.